Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Sur un marché, elle croise la route d'un bel ouzbek vendeur d'épices. Elle connaît la révélation de sa prochaine destination. Gourmande et curieuse, elle décide de prendre une année sabbatique pour fureter dans les cuisines d'Asie centrale. La voilà partie pour 6 mois, seule, avec l'envie de découvrir les femmes d'Asie centrale, dans l'espace où elles sont reines, les cuisines. De l'Azerbaïdjan au Kazakhstan, en passant par l'Iran, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, elle s'intéresse ainsi à leur place dans la société, expérience qu'elle approfondit à travers la rédaction du récit de son voyage.
Allez, bah c'est parti, ça va être très chouette en fait, le petit échange qu'on va avoir ensemble. Alors là, j'ai dans mes mains, à l'auberge de Lorient, seule sur les routes d'Asie centrale. T'as pas peur ?
Peur de quoi ? De toi ?
Ben peut-être de moi ou de l'Asie ?
Non, pas du tout. Oui, effectivement. Alors moi, c'était un échange un peu particulier puisque c'était un échange de recettes de cuisine traditionnelle. Donc il ne s'agissait pas ni d'argent, ni de biens, ni de moyens, mais d'échanger des moments d'intimité, notamment avec les femmes, sur ce qu'on a tendance à appeler aujourd'hui les routes de la soie pour réveiller une mythologie qui sommeille en chacun de nous, mais dont il reste peu de choses, excepté le caravansérail qui est d'ailleurs sur la couverture de mon récit.
Alors tu es parti avec ce projet de partager les expériences culinaires, comment explique-moi ta démarche, qui es-tu ? On va peut-être commencer par toi tout simplement. J'ai en face de moi Alice Plane, donc je vais te demander de te présenter.
Je suis Alice Plane, qui suis-je ? Je suis une jeune Lilloise d'aujourd'hui 26 ans, qui âgée de 22 ans a décidé de partir seule en Asie centrale, avec ce prétexte merveilleux qui est l'apprentissage des recettes de cuisine traditionnelle. Pourquoi ce projet de voyage un peu particulier, j'en conviens. Disons que j'ai toujours aimé partir en voyage et eu en tête de partir un jour seule. Le problème, c'est que quand on est une femme et qu'on est seule, et ben évidemment, ça suscite des inquiétudes, des interrogations, des angoisses, notamment de la part de ses proches. Il se trouve qu'en parallèle, je suis quelqu'un de très gourmand, comme tu l'auras remarqué, puisque j'ai tenté subtilement de subtiliser quelques gâteaux tout à l'heure, mais je n'ai pas réussi. Et donc j'aime bien manger, découvrir les rites culinaires qu'il y a dans les régions où je me rends. Et un jour, donc, j'apprenais le russe. J'ai obtenu une bourse d'études à Moscou. Et en me baladant un week-end sur un marché, j'ai croisé la route d'un très beau jeune homme, ouzbek. Et ce jeune homme que j'ai à peine croisé, hein, simplement aperçu dans ce marché, qui m'a simplement dit le pays dont il venait, m'a donné envie de découvrir l'Ouzbékistan. Et donc je suis partie l'année d'après pendant un mois, accompagnée d'une amie, à travers Boukhara, Samarkand, Tashkent, Triva et la vallée du Fergana, où se trouvent les dernières fabriques de soie de la région. Et ça a été une façon pour moi d'avoir un premier goût de la région et surtout d'apporter, rapporter quelques très belles photos à mes parents qui se sont rassurés sur le fait que ça avait beau se finir en stand, on avait beau ne pas savoir le placer sur une carte, ça n'était pas pour autant des barbares qui habitaient dans ces pays-là, mais des gens très accueillants, très charmants. Et ça a été l'occasion, donc l'année suivante, une fois âgée de 22 ans, après avoir travaillé pendant 3 mois, dans un restaurant proche de chez mes parents, j'ai recueilli suffisamment d'argent pour partir sur les routes seule, donc dans toute cette zone qui a longtemps été une partie de l'Union soviétique, et ainsi que l'Iran, donc une partie perse et une partie Union soviétique, deux histoires qui sont encore très très présentes sur cette zone géographique du monde.
Donc tu disais stand, c'est vrai qu'on a plusieurs, on va essayer de le situer un petit peu, l'Ouzbékistan, t'as le Kazakhstan, Turkménistan, le Kyrgyzstan.
Ouais, alors soit tu le prononces Kyrgyzstan, soit Kyrgyzistan, ça s'écrit Kyrgyzistan, mais après ça dépend de chacun. Donc moi le périple qui est raconté dans cet ouvrage, à l'auberge de l'Orient, seul sur les routes d'Asie centrale, c'est en partant donc de Bakou, en Azerbaïdjan, sur les bords de la mer Caspienne, au niveau des monts Caucase. Je suis ensuite descendue en Iran, à travers les déserts jusqu'au golfe Persique, remonter à Mashhad, qui est une ville très religieuse où se trouve le seul des 12 imams chiites enterrés en terre iranienne. Et de là, j'ai pris un avion pour le Tadjikistan, où j'ai passé près d'un mois dans les très hautes montagnes du Pamir, à une altitude moyenne de 2500-3000 mètres pour les villes. Sinon, on est encore beaucoup plus haut. Les pics communisme, Lénine et autres sont à 7000 mètres et plus. Et de là, je suis redescendue par la vallée du Fergana Kirghiz avant d'arriver dans les steppes kazakhs au niveau d'Almaty. Voilà le parcours, sachant qu'avant ça, il y avait eu l'Ouzbékistan, encore avant Moscou. Et après ça, je suis repartie en Chine, Mongolie, et je suis rentrée en Transsibérien. Mais la partie qui est vraiment racontée dans le livre, c'est depuis Bakou en Azerbaïdjan jusqu'à Almaty au Kazakhstan.
Bon, j'imagine que tout le monde pris le temps de sortir une carte et a suivi du doigt l'itinéraire que tu viens de nous décrire. Tu avais un fil conducteur qui était l'alimentation. Pourquoi ? Comment l'idée de partir avec ce fil a germé, a fleuri, a cuisiné, a bouilli, comment, quoi, pourquoi ?
Ben, ça a longuement mijoté. Et pourquoi ? Ben oui, c'est vrai que je ne te l'ai pas expliqué, ça c'est quand même ce qui est le plus important. C'est qu'en tant que femme seule, je voulais éviter de prendre des risques. Et il se trouve que quand on est une femme, on a accès à quelque chose qu'un homme ne peut pas voir.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Alice Plane à l'auberge de Lorient seule sur les routes d'Asie centrale. Ouais, ouais.
La plupart des gens qui voyagent, la plupart des voyageurs, ne sont justement pas des voyageuses. Ce sont des hommes, et dans ces pays d'Asie centrale qui, pour la plus grande majorité de la population, sont musulmans, chiites ou sunnites, la place de la femme est dans les cuisines, mais ça c'est partout dans le monde encore aujourd'hui, mais plus particulièrement, elles n'apparaissent que très peu lorsque des visiteurs sont présents. Et donc, moi, décidant de partir dans cette région, sur les traces d'illustres prédécesseurs comme Nicolas Bouvier, comme Ella Maier et bien d'autres, j'avais envie d'apporter un regard différent sur cette région. Et je me suis dit, en tant que femme, j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel que personne n'a fait avant moi, pour une raison très simple, c'est que c'était des hommes. Et que moi, en tant que femme, j'ai accès aux autres femmes, j'ai accès aux cuisines. Et si je décide d'apprendre les recettes de cuisine traditionnelle, ça va être un excellent moyen pour aller à la rencontre de ces peuples, autant d'ailleurs les femmes que les hommes, depuis l'Azerbaïdjan jusqu'au Kazakhstan. Donc ça a été un merveilleux prétexte et qui s'est révélé d'autant plus intéressant qu'en fait, pour la plupart de ces pays, donc excepté l'Iran, ils ont tous fait partie de l'Union soviétique. Et dans l'Union soviétique, il y avait une tradition, si on peut appeler ça comme ça, de délation. C'est-à-dire qu'on allait très facilement dénoncer son voisin pour crime politique, pour pensée non conformiste à celle imposée par le régime soviétique. Et donc il était très dangereux de parler librement. On ne disait pas ce qu'on pensait. Et il est resté un proverbe qui dit en russe que le seul endroit où la parole peut être libre, c'est la cuisine. Pourquoi ? Parce que la cuisine, c'est l'espace de l'intime, c'est l'espace de la famille, c'est l'espace du foyer, et dans lequel, justement, on peut se laisser aller à dire qui l'on est, ce que l'on ressent, ce dont on a peur, ce que l'on aime, sans crainte du jugement de l'extérieur. Et donc, ce viatique de la cuisine a été une clé d'entrée vraiment merveilleuse pour aller à la rencontre de ces habitants iraniens, tadjiks, kirghizes, ouzbeks, kazakhs ou azerbaïdjanais au cours de ce périple.
Mais dans ce cocon qu'est la cuisine, où l'on se sent bien et où les langues se délient pour pouvoir communiquer, il faut trouver une langue. Comment tu t'y es pris ? Est-ce qu'on communique seulement avec des saveurs, des odeurs, des couleurs, ou est-ce qu'on arrive à communiquer au-delà des mots ?
Non, j'ai très vite appris à dire tomate, oignon et type de découpe et temps de cuisson dans un certain nombre de langues. Mais oui, alors... En général, en voyage, pour peu que l'on ait l'esprit et le cœur ouvert, on n'a pas besoin de parler la même langue que les gens avec qui on est. Pour une raison très simple, c'est qu'on s'entend sur l'essentiel. Après, moi, mon objectif, c'était quand même d'aller au-delà de ça et de pouvoir comprendre les histoires, les parcours des gens que j'allais rencontrer. Et donc, avant de partir, j'ai appris le russe. De nos jours, il y a eu des fortes vagues de renationalisation, notamment en Ouzbékistan. On a même changé l'alphabet. Beaucoup ont abandonné l'alphabet cyrillique. Mais pour autant, tous les plus de 30 ans parlent couramment russe. Et encore aujourd'hui, les écoles russes sont considérées comme étant les meilleures écoles d'apprentissage pour les enfants. C'est un peu, en France, ça serait l'équivalent des écoles, des lycées privés, où les parents vont avoir tendance à vouloir envoyer leurs enfants dans les lycées privés sous prétexte que ce serait meilleur que le public. Et ben, ça va être ça, mais avec les écoles russes. Donc encore aujourd'hui, on trouve beaucoup, beaucoup de russophones. Le français et l'anglais se développent très, très doucement. En Iran, j'ai rencontré quelques francophones et quelques anglophones. Là, pour le coup, ils ne parlent pas du tout russe. C'était un peu plus délicat. Mais j'ai réussi à apprendre quelques bases de persan très rapidement, puisque quand on est en immersion complète, on n'a pas vraiment le choix, on apprend très vite. Au point qu'à la fin de mon périple en Iran, au bout d'un mois, je baragouinais suffisamment de sabir de persan pour pouvoir appeler mes futurs hôtes, qui étaient des amis d'amis de mes parents, pour les prévenir de mon arrivée. Et avec ce sabir de persan et d'anglais, ils ont cru que j'étais une jeune iranienne qui se faisait passer pour une étrangère, mais qui était en fait une espionne envoyée par le régime pour surveiller leurs activités contre-révolutionnaires. C'était des nobles, donc soutien reconnu du Shah d'Iran, et de feu le Shah d'Iran, chassé en 79 par la révolution islamique. Et donc ils m'ont accueillie très très sceptique, me regardant de travers. Et donc moi j'étais très très mal à l'aise, je me disais mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, c'est pourtant des amis de mes parents, il n'y a pas de raison qu'ils soient si étranges avec moi. Et jusqu'au moment où à table ils me servent, je vois une grande carafe de vin et une grande carafe d'eau. Alors c'est déjà très surprenant de voir du vin, puisqu'en Iran l'alcool est interdit, et je me sers un grand verre d'eau, et là je commence à boire et je découvre qu'il s'agissait de vodka pur. Et là, le grand-père de la famille éclate de rire. Il me dit « C'est vrai que j'ai été étonnée de voir une jeune fille se servir un si grand verre d'alcool. » Et là, ça a été le moment où tout le monde s'est relâché, où ils m'ont expliqué qu'effectivement, ils m'avaient prise pour une espionne envoyée par le régime des mollahs, pour des imams du gouvernement, pour les espionner et pour vérifier qu'ils n'avaient pas d'activité d'entrop dangereuse ou révolutionnaire ou que sais-je.
Donc c'est vrai, on peut dire vodka connecting people.
On peut dire ça, ouais. Malheureusement, on peut aussi le dire, plus on remonte vers la Russie, plus la vodka est présente en fait. Puisque parmi les techniques d'athéisation de la population, donc très largement musulmane, les soviétiques étaient contre l'idée même de Dieu. Et donc transformer les mosquées ou les églises en musées de l'athéisme. Lors des services militaires, ils servaient exclusivement du porc aux jeunes conscrits pour les obliger à trahir les tabous de leur religion. Et notamment, on leur servait amplement d'alcool. Et c'est resté, malheureusement. Alors, en Iran, pas du tout. Mais c'est vrai que moi, passant d'Iran au Tadjikistan, j'ai eu un vrai choc, en fait, de trouver des magasins où on ne vendait que de la vodka. Et de tomber sur ces visages rougeaux, empâtés, avec la peau, les pores suants, typiques des buveurs de vodka russes. Donc, c'était assez surprenant. Après, il y a des régions où c'est également très agréable. Je me souviens à Riva, en Ouzbékistan. J'étais accueillie dans une chaïkhana, c'est donc une maison de thé, qui est également une auberge. Le vieil homme qui tenait cette chaïkhana, avec mon ami, nous avait donc accueillis pour quelques jours. Et chaque soir, buvait son petit verre de vodka. Et donc, tout en nous parlant de sa religion. Alors, on l'a quand même interrogé à savoir s'il se prétendait musulman. On trouve ça assez étrange qu'il boive de l'alcool. Il nous a répondu « Oui, oui, c'est vrai, mais bon, je suis encore jeune, j'ai que 77 ans. J'ai encore quelques années devant moi avant de faire mes 5 prières par jour et de respecter tous les codes voulus par l'islam. » Donc, en un sens, les années soviétiques ont également matiné et adouci l'islam d'Asie centrale.
Maintenant derrière les fourneaux, on va dire qu'on est chez toi, dans ta maison, au Tadjikistan, dans cette maison là-bas près du poêle, au fond de la maison à droite. Qu'est-ce que tu nous sers? Je suis l'étranger, j'arrive chez toi. Déjà, comment est-ce que tu m'accueilles? Dis-moi quelques mots en Tadjikistan et raconte et dis-moi ce qu'on va manger à moi qui ai fait tant de routes pour venir chez toi te voir.
Alors, la première chose que tu vas faire, c'est d'enlever tes chaussures avant d'entrer dans la maison. Tu vas les laisser à l'extérieur. Puis ensuite, on va probablement te proposer de te laver les mains. Et ensuite, parce que tu es un étranger, on va te faire l'honneur de te faire asseoir sur le dos contre le pilier d'Ali, qui est pour les chiites le pilier principal. Alors que pour les sunnites, ce sera celui de Mahomet, le prophète. Et on va te faire asseoir et on va apporter devant toi, une femme va apporter devant toi une nappe contenant un pain, mais également des sucreries, des bonbons, parfois des fruits si on est en été. Et on va ouvrir cette nappe devant toi et on va t'apporter un thé, mais un thé un peu particulier qu'on appelle le shir chai. Alors tu sais ce que c'est que le chai puisque tu en sers cet après-midi, mais le shir chai c'est un peu particulier. Shir ça veut dire le lait et chai le thé. Et donc ça va être c'est le repas disons traditionnel, mais surtout le repas de subsistance dans le Pamir, puisque c'est une région très très pauvre. Il y a très peu d'accès à l'extérieur, donc on peut difficilement faire venir des biens et notamment de la nourriture. Et donc on va faire ça avec ce qu'on a. Alors ce qu'on a c'est quoi? Donc c'est des feuilles de thé noires qu'on va faire bouillir, on va mettre un peu de sel, un peu de sucre, du lait pour épaissir le tout. Et puis ensuite, il se trouve que le pain, on le prépare en quantité astronomique. On en fait 20 à la fois dans des fours qu'on appelle les tandirs. C'est absolument succulent quand il sort du tandir, qu'il est encore chaud et croquant. Mais dès qu'il commence à être sec, au bout d'un jour ou deux, c'est immangeable. Et donc, ça tombe bien. Ce plat, on va couper les morceaux de pain sec et les tremper dans le thé. Et on va ajouter une bonne dose de beurre. Souvent du beurre de yak, parfois du beurre de vache, une grosse cuillerée à l'intérieur de ce bol, et avec sa main droite, évidemment, pas la main gauche, on va plonger à l'intérieur du bol pour ramasser les morceaux de pain imbibés de thé salé au beurre. Et ce qui est fantastique avec ce plat, c'est qu'à la fin, quand on a fini de manger, on a les mains pleines de gras, et ça tombe bien. C'est une excellente façon de les hydrater, de les protéger contre le froid. Donc on se frotte les mains l'une contre l'autre, et puis on peut retourner dehors au travail des champs, ou bien aller puiser de l'eau au puits.
Quand tu dis seul aujourd'hui, on a cette chance d'être français, donc d'avoir un passeport qui nous ouvre quasiment toutes les portes de tous les pays, de toutes les frontières. De plus en plus de gens sont sur les routes, peut-être moins de femmes que d'hommes dans certains lieux géographiques du monde, mais il reste quand même beaucoup de gens qui voyagent avec des facilités parce que nous, on peut le faire. Est-ce que tu rencontres beaucoup de gens dans ces régions-là ?
Tu veux dire d'étrangers ?
D'étrangers, oui, d'européens ou d'étrangers.
Aucun. J'ai croisé... Sur ces 5 mois de voyage en solitaire, j'ai croisé une fois un groupe de touristes grecs. C'était à Persépolis, en Iran. Puis j'ai croisé un autostoppeur sur les routes du Tadjikistan. Et au Kyrgyzstan, j'ai croisé un couple qui voyageait à vélo. Donc voilà, 3 personnes et un groupe.
C'est tout.
C'est les seuls étrangers que j'ai croisés pendant tout ce périple.
Ok, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde que ça sur les routes, même en Asie centrale.
Bah le Pamir, notamment, là dont je parlais tout à l'heure, au Tadjikistan, il y a encore moins de 10 ans, il y avait une dizaine d'étrangers par an qui y pénétraient. Alors aujourd'hui, on est plutôt proche des quelques milliers, mais ça reste des circonscrits aux périodes d'été. Et moi, je suis partie en janvier et j'ai terminé mon périple au Kazakhstan en mai. Donc c'est encore des saisons où il y a très très peu de tourisme. Pour le peu qu'il y en ait dans cette région, qui est de toute façon tellement inconnue. C'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais envie d'y aller, d'ailleurs. Parce que quand on dit « Allez, Kyrgyzstan », personne ne sait le placer sur une carte. On se demande même si c'est un pays qui existe. Donc c'était aussi ça qui m'intéressait, d'aller dans une région où personne ne va et d'essayer de voir un peu à quoi ça ressemble, qui sont les gens. Mais bon, je te rassure, il y a des photos dans le livre qui permettent de
visualiser tout ça.
Au-delà des mots.
Alors, avant ton départ, qui c'est qui a eu le plus peur, toi ou tes parents ?
C'est ma grand-mère qui a eu le plus peur. Mes parents, étonnamment, il faut croire que je les avais habitués à la chose, ont très bien accepté l'idée de mon départ. À partir du moment où ils ont vu que j'étais décidée, moi, ils ne se sont jamais mis en travers de mon projet, bien au contraire. Ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est beaucoup plus difficile de partir quand il y a des gens dont on est très proche qui sont angoissés pour vous. C'est ma grand-mère maternelle qui était très très inquiète, et notamment inquiète des talibans. Et autres intégristes de tous bords. Et ce qu'elle voulait faire avant que je parte, c'était de m'offrir. Alors, ça n'existe pas dans le commerce. Hein, je ne sais même pas comment elle en a eu l'idée. C'est quelque chose qui a été développé notamment dans les prisons ou par l'armée française. Ce sont donc des colliers avec une puce GPS qui permettent d'être localisés où qu'on soit dans le monde. Comme si j'étais en probation avant de retourner dans ma prison.
C'est génial, t'es partie avec ça ?
Non, j'ai immédiatement refusé une telle idée. D'ailleurs, en parlant de prison, tu vois, j'étais en train de relire une citation tout à l'heure que j'ai lue ce matin. Qui serait insensé pour mourir sans avoir fait le tour de sa prison ? Qui est une forme d'invitation au voyage dans un récit de Marguerite Yourcenar. Et voilà, moi, le tour de ma prison, j'ai décidé d'agrandir la prison et d'aller en faire le tour un petit peu plus loin avant de revenir sur mes pas.
Φέρον όσα φαινολείς Εσκεδασάβος φέρεις οίν φέρεις εγά φέρεις άπη μάτερη παιδά αστέρων πάντων ο καλλιστός Έσπερε πάντα φέρον όσα φαινολείς Εσκεδάσα πως φέρεις οίν φέρεις εγώ Φέρεις άπη μάτρη παιδά Ο καλλιστός
Tu en es où maintenant dans ton parcours ? Est-ce que tu vas continuer à voyager ? Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture ? Parce que donc là, effectivement, on n'a même pas tellement parlé de ton bouquin. Mais donc, Alice Plane, ton bouquin, ça s'appelle « À l'auberge de l'Orient », seul sur les routes de l'Asie centrale. Donc on l'a vu, tu as traversé plusieurs pays. Tu te bases sur le fil conducteur de l'alimentation, le plaisir culinaire que tu as partagé avec ces femmes de différents horizons. Est-ce que tu as d'autres projets maintenant, toujours autour de la même thématique peut-être, ou une autre ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce voyage, moi, je l'ai fait en 2007, donc ça commence à faire un petit moment déjà, ça fait 4-5 ans. Et à mon retour, parce que je n'arrivais pas à partager ce que j'avais vécu, parce que c'est difficile d'avoir quelqu'un de captif pendant plusieurs heures de suite pour que vous puissiez lui raconter par le menu tout ce qui vous est arrivé, j'ai préféré l'écrire. Au moins, avec le lecteur, on n'a pas d'ennui. S'il en a marre, il ferme le livre et puis il s'arrête. Non, je plaisante. Non, mais sérieusement, la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire, c'est ça, c'est que je ressentais un besoin très fort de pouvoir transmettre ce que j'avais vécu, compris, découvert de cette région et de moi-même. et je n'arrivais absolument pas à le transmettre avec des mots à l'oral. Et donc ça a été la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire. Et puis en rentrant, j'ai repris des études, donc dans une école de commerce avec une spécialisation en entrepreneuriat social. J'ai travaillé pour payer ces études, donc l'écriture du livre a pris un peu de temps. Et puis l'an dernier, en 2010, j'ai rencontré Aymeric et Marc des éditions Transboréales, avec qui on a bien accroché et on a décidé d'aller au bout de ce manuscrit et d'en faire un vrai récit qui est sorti là au mois de mai.
Avant de partir, tu savais déjà que tu allais écrire un bouquin ou c'est vraiment ton retour de voyage que tu t'es plongé dans l'écriture ?
C'est une envie que j'avais depuis longtemps. J'aime beaucoup écrire. Donc c'est quelque chose qui de toute façon me tenait à cœur. Après, avant que je parte, je suis allée voir un mec, je sais plus comment il s'appelait, c'était le responsable des éditeurs du Nord-Pas-de-Calais, puisque je suis originaire du nord de la France, la Fédération des éditeurs du Nord-Pas-de-Calais. Et le type m'a gentiment reçu, mais m'a dit « Écoutez, mademoiselle, vous êtes bien mignonne, mais... vous n'êtes personne, vous êtes jeune, vous ne connaissez personne dans le monde de l'édition, vous n'avez aucun contact, vous n'avez jamais rien écrit, personne ne peut vous faire confiance. Votre seule chance, ce sera d'avoir réalisé un voyage, d'avoir écrit ce voyage et que votre projet soit repéré par un éditeur qui a un coup de cœur pour ce que vous aurez fait, parce que vous l'aurez également suffisamment bien écrit pour qu'ils aient envie de le lire. Et là, vous verrez. » Et donc, moi, je suis partie en me disant « Bon, bah, ça marchera pas, c'est sûr, j'ai pas mes chances. Je suis personne, je suis nulle, je sais pas écrire, j'irai nulle part. » Et puis au retour, là, par contre, j'ai ressenti très fortement le besoin d'écrire pour pouvoir transmettre, expliquer, comprendre moi-même ce qui m'était arrivé pendant ces 5 mois, parce qu'il m'est arrivé un certain nombre de péripéties. Et là, en fait, une fois que j'ai réussi à coucher sur le papier tout ça, à l'enrichir, à l'expliquer, à donner des explications politiques, historiques, culturelles sur cette région qui, moi, me passionne, j'ai rencontré donc cette maison d'édition avec qui on a très bien accroché et on a décidé d'aller au bout et d'en faire un livre. Mais en soi, c'était quelque chose qui me trottait en tête, mais qui n'était pas... que je ne pensais pas un jour mettre en pratique, en fait.
Tu veux me lire un passage ?
Ouais, si tu veux.
Tiens, c'est pas mal. Arrête-toi devant les photos, là. Je veux te voir un petit peu ce qu'on...
Alors, je peux te lire l'extrait qui est là ?
Alors, c'est quoi ? Attends, on va donner une dimension visuelle à celui qui nous écoute. Donc là, sur la photo...
C'est moi, hein.
Ah, d'accord.
J'ai senti que t'avais pas reconnu, donc...
Non, effectivement, j'avais pas reconnu, quoi.
Il faut savoir que pendant ce voyage, comme je finissais mon assiette et que l'assiette était souvent bien remplie, j'ai quand même pris 8 kilos, que j'ai reperdu depuis. Donc, ce qui explique en partie la raison pour laquelle tu ne me reconnais pas. L'autre raison, c'est que je porte un foulard traditionnel pamiri sur la tête. Et la troisième raison, c'est que les gens qui m'ont justement baigné le bain dont je te parlais tout à l'heure m'ont également offert un habit traditionnel pamiri qui est une espèce de robe informe en velours rose avec des imprimés de rose rouge, donc d'un goût très kitsch, typique de la région, en velours et que je porte effectivement un petit agneau astrakhan dans les bras.
Allez, vas-y, lis-moi un passage.
Je pars seule avec un projet en tête. Parcourir les routes de la soie, non pour découvrir les tissus précieux et les épices rares, mais pour apprendre la cuisine. Pas la cuisine gastronomique, le raffinement des plats ou leur savant de préparation. Non, ce que je veux apprendre, c'est la cuisine populaire, celle des marmites pour 15 personnes, celle qu'on fait mijoter durant des heures en papotant entre femmes, celle des fours en terre comme celle des plaques électriques. Donc voilà, ça c'est un peu ma profession de foi pour le voyage. Alors ça c'est un extrait de... Ce proverbe-là, je ne l'ai pas écrit, mais en fait c'est de Hafez, qui est un des grands poètes persans, et qui dit « En pleine angoisse, ne perds jamais l'espoir, car la moelle la plus exquise est dans l'os le plus dur. »
Merci pour le bouquin, merci pour le partage, parce que le voyage est une expérience, et merci de pouvoir la partager. En quelques mots, qu'est-ce que ce voyage t'a apporté ou t'a appris ?
C'est la question terrible, ça, faut pas la poser. J'en discutais justement récemment avec une copine qui d'ailleurs est journaliste et qui l'a conclu pour moi. Elle m'a dit en somme, ce que t'as apporté, c'est ce voyage, c'est une immense confiance dans l'être humain. Donc je pense que ça sera le mot de la fin, une immense confiance dans l'être humain.
Merci.
Je t'en prie, merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardeailleurs.org.